louange pour s'approcher de Dieu. Il y a aussi la prédication de sa parole. Alors j'espère qu'à la fin de ce temps de prédication, vous aurez encore envie de louer le Seigneur. Parce que c'est le but, quand on ouvre la parole de Dieu, on est émerveillé de ce qu'il nous dit et ce qu'il veut. Il nous parle aussi, comme dans ce temps de louange. Il parle peut-être plus d'une autre manière dans la louange, mais il nous parle aussi dans ce temps de prédication. Alors, on est au début de cette période estivale, il fait chaud, il fait beau. Ce mois de juin est rempli, il y a plein d'activités. On n'arrive pas à s'arrêter tellement il y a de choses. C'est le bon moment de parler du repos. Vous n'êtes pas d'accord ? C'est la bonne période, je trouve, le mois de juin. Et d'un coup, on arrive au début juillet, il y a tout qui s'arrête. Les gens ne sont plus là, les gens vraiment, tout le rythme change. Vous êtes d'accord ? Et on attend avec impatience ce moment. Et c'est vrai que ce thème du repos, j'ai réalisé que c'est un thème que j'ai déjà apporté à l'Église. C'est une thématique que j'ai développée, mais que le Seigneur me conduisait à de nouveau aller plus en profondeur et reprendre ce thème. Alors je vous rassure, c'était il y a longtemps, hein, en 2015. Qui c'est qui était là et qui se rappelle ce que j'ai dit en 2015? Voilà, il y a quand même... Vous vous rappelez ce que j'ai dit à ce moment-là sur le repos? Non, bon, alors c'est bon, je peux continuer. Mais c'est vrai que je suis aussi comme l'apôtre Paul qui dit « Je ne me lasse pas de vous répéter ces choses, de vous écrire les mêmes choses ». Cela vous est salutaire, hein, il dit ça à Paul à un moment donné. Je pense que c'est bon de redire jusqu'à ce qu'on puisse le vivre vraiment pleinement. Alors dans ce thème du repos que je vais prendre en deux fois, mais aujourd'hui je vais aborder un aspect et on prendra un autre la prochaine fois. Souvent l'idée de repos et de vacances, il y a deux types de vacanciers. Je ne sais pas si vous êtes l'un de ces types de vacanciers. Il y a le vacancier qui dit « Moi, je me pose sur une plage, je ne fais rien. Je prends un livre, un seul, et c'est cocktail, et je me repose, et je bronze, ou bien je suste, je me balade en montagne, mais je ne fais rien. Rien, pas de programme, surtout pas de programme. J'en fais déjà toute l'année, alors là, je ne vais pas encore en faire plus. » Ça, c'est le premier type de vacancier, ou de personne qui veut se reposer. Il y a un deuxième type de vacancier, c'est celui qui dit « Moi, alors, il faut que je rentabilise mon temps. Je veux dire, j'ai que 2 semaines, là, et on est dans une région formidable. On est dans le pays de la Loire, il y a plein de châteaux à visiter. Il ne faut surtout pas, je ne reviendrai pas ici peut-être avant 5 ans ou 6 ans, alors je vais en faire le maximum et le plus possible, etc. Vous voyez le deuxième type de vacancier. Il y a le reposeur actif et le reposeur passif, on pourrait dire. Alors, ce matin, j'aimerais qu'on puisse dépasser ces deux notions. Parce que ce n'est pas la pensée de Dieu, la pensée biblique du repos. Et j'aimerais vous parler du repos selon Dieu. C'est un principe vraiment qu'il a établi, pas à la fin de l'Ancien Testament, mais dès les premiers versets, dès les premiers chapitres de la Genèse. C'est vraiment un principe qu'il a mis en place, qu'il nous faut comprendre aujourd'hui. Cette première mention du repos, elle est dans le livre de la Genèse, au Genèse 2, et j'aimerais qu'on s'arrête seulement sur 2 versets aujourd'hui. Et vous allez voir la richesse de la parole de Dieu, juste avec 2 versets. Et je vous propose de les lire ensemble. Donc Genèse chapitre 2, et les versets 2 et 3. « Dieu acheva au 7e jour l'œuvre qu'il avait faite. Il se reposa au 7e jour de toute l'œuvre qu'il avait faite. » Verset 3, « Dieu bénit le 7e jour et il le consacra. » Certaines versions disent « le sanctifia ».« Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia, car en ce jour, Dieu s'est reposé de toute l'œuvre qu'il avait créée. » Ici, on est à un moment clé de l'acte créationnel de Dieu. Dieu a, pendant 6 jours, 6 temps, produit sa création. Il y a vraiment une structuration ici qui est reprise dans la semaine qu'on connaît. 6 jours de travail, 1 jour de repos. Et Dieu a fait la terre, Dieu a fait la matière, Dieu a fait le végétal, les animaux, les humains. Et voilà qu'on arrive dans ce septième jour qui s'ouvre. Et la plupart des textes traduisent par « Dieu se reposa ». Certaines traductions ne le font pas. Je pense que la Tob ne le fait pas. Mais c'est vrai que c'est une mauvaise traduction de dire que Dieu s'est reposé. En fait, si on lit directement dans l'hébreu, ce n'est pas qu'il se reposa, mais il s'arrêta. Et c'est le mot « Shabbat » qui est là. Alors j'ai mis « Shabbata » pour sa face « il arrêta ». Ce n'est pas du tout ça en hébreu. Il arrêta au septième jour toute l'œuvre qu'il a faite. Il ne s'est pas reposé, il s'est arrêté. Et on voit un peu plus loin qu'il a arrêté toute l'œuvre que lui-même avait créée par son action. Il y a d'autres mots en hébreu pour dire « repos ». Et ce n'est pas celui-là qui a été choisi ici. Il y a plein d'autres mots, il y a plusieurs synonymes d'ailleurs. Il y en a un, c'est « nouar » qui veut dire « se poser ». Reposer sur. C'est ce mot, Shabbat, qui a été choisi ici pour dire qu'il a cessé, qu'il a arrêté son action. Et deux notions qui ressortent dans le texte que je viens de vous lire, c'est arrêter et consacrer, ou kadosh, qui est un autre mot. Et en fait, il y a deux mots qui ressortent dans ces deux versets. C'est Shabbat, arrêté, qu'il a arrêté son action, et il a consacré, kadosh, ou kadash. Donc c'est ces deux notions que j'aimerais un peu développer avec vous. Le fait que Dieu a cessé quelque chose et qu'il a consacré. Et c'est ça la notion, c'est là que devient la notion même du repos dans le sens biblique. C'est un jour spécial où Dieu met à part ce jour. Consacre ce jour, c'est un jour différent. La notion de repos dans la pensée de Dieu, c'est un jour différent des autres jours. C'est un temps, on pourrait dire, différent des autres jours. Et c'est un Dieu aussi qui décide de mettre un terme à son travail de création. J'aimerais prendre avec vous ce premier point, cette première notion. Le repos, c'est s'arrêter. C'est le mot Shabbat. J'aimerais qu'on s'arrête sur cette notion. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu s'est arrêté ? Vous êtes d'accord que quand même c'est étonnant de se dire que Dieu est allé faire une sieste ? Non, je ne pense pas. D'ailleurs, il y a des textes mythologiques anciens qui montrent les dieux qui façonnent la terre dans les mythes proches orient anciens, babyloniens et tout ça. On voit que Dieu il s'arrête, les dieux s'arrêtent, ils ont bien travaillé, ils sont allés se retirer dans leur chambre et faire une sieste. Mais est-ce que vous pensez que le Dieu en qui est le mouvement, la vie et l'être a besoin de s'arrêter ? Est-ce que vous pensez que le Dieu qui en lui est la vie est tout et toute ressource est en lui, un Dieu illimité, est-ce qu'il a besoin de s'arrêter ? Pensez-vous. Il y a un verset dans les psaumes qui dit que Dieu ne sommeille ni ne dort. Donc on ne peut pas tellement penser que Dieu est allé faire une sieste, vous êtes d'accord avec moi ? Comment comprendre un Dieu qui s'arrête ? Alors, un indice nous est donné dans le texte. Vous avez vu que pour les six jours qui ont précédé, c'est écrit « il y a eu un soir et il y a eu un matin » pour délimiter ces périodes d'action de Dieu. Mais pour le septième jour, cette mention est absente dans notre texte. Il n'y a pas de soir et de matin. Certains diraient que nous serions dans ce septième jour. Dieu, après avoir façonné, il a façonné la terre, c'est le verbe « yatsa » qui vient. Quand Dieu dit et Dieu fit, c'est comme il a façonné. C'est le même mot pour le potier qui façonne. Donc Dieu a façonné, comme le potier façonne l'argile, Dieu a façonné le monde pour lui donner la forme voulue. Il a posé les grandes règles de le réglage fin de l'univers. Il a produit, il a pris un temps pour mettre les grandes lois physiques de l'univers, pour que tout fonctionne, tout roule, les grandes lois de la biologie, les grands principes, dans l'infiniment petit, dans l'infiniment grand. Il a tout posé ça pendant six jours, nous dit le texte, six périodes, et voilà qu'il s'arrête pour contempler sa création et pour la remettre à l'être humain, pour lui donner un jardin pour qu'il puisse entrer en relation avec lui. Et que l'être humain jouisse de cette magnifique création. Dieu s'arrête pour que nous puissions agir, pour que l'histoire de l'être humain puisse commencer. Certains disent que Dieu se retire même pour donner de l'espace à sa création et à l'être humain. Et il appelle à entrer en relation avec lui. En s'arrêtant, en cessant, littéralement, Dieu libère un espace pour la relation. Saint Augustin, qui est un auteur du 4e siècle, 5e à 4e siècle, va dire ceci, 4e, 5e. L'activité de ce jour ouvert renverrait donc à l'achèvement de la création, achèvement qui permet à l'histoire humaine d'exister dans un cadre stable, à l'abri des bouleversements causés par les actes créationnels. Le repos, c'est sortir du faire, c'est sortir du rendement, c'est mettre une limite à ma productivité et entrer dans la gratuité de la relation. Au-delà du repos physique qui est nécessaire, notre corps a besoin de repos, c'est plus que cela, le repos dans la pensée de Dieu. Il nous faut entrer dans une cessation d'activité pour exister autrement. Combien de fois dans mon temps libre, dans mes jours de congé, je remplis et je remplis et je remplis d'autres choses à faire? Combien de fois est-ce que je ne relationne pas finalement dans ce moment-là? Et l'être humain n'a pas été créé pour la productivité, mais il a été créé pour la relation. La relation à Dieu et la relation aux autres. Et si nous ne nous apprenons pas à nous arrêter, nous courons un grand risque physique, psychique et spirituel. Vous savez que l'argent, on est d'accord aujourd'hui, il n'y a plus que ça qui compte. De plus en plus, on l'entend. Il n'y a plus que la productivité, la production, le stress. On voit les grands de ce monde où finalement, derrière soi-disant une politique, il y a beaucoup d'intérêts financiers. Il y a beaucoup d'intérêts capitalistes, on le voit, il y a beaucoup d'hypocrisie aujourd'hui. On veut soi-disant faire le bien en intervenant quelque part, mais il y a des intérêts financiers, on veut gagner plus, extraire plus, produire plus. Et c'est vrai que ça pose des questions. Il n'y a plus de limites, en fait. Il n'y a plus de limites. Mais on peut prendre d'autres domaines dans nos vies. Quand le sport devient tellement, quand on voit ceux qui font du trail, d'ultra-trail, certaines formes de sport, c'est tellement intense, c'est tellement sans limite. Parce qu'il faut avoir la gourde du type comme ça, il faut avoir le tel matériel, il faut aller à l'autre bout du monde pour courir sur un glacier ou sur une telle montagne, faire tel parcours. Ça devient tellement technique. Il n'y a plus de limite. C'est presque un champ infini qui est là. Et je pense que la semaine des 6 jours... qui est cessé à un moment donné par Dieu, pour libérer un jour, nous enseigne quelque chose. Dieu, qui n'a pas besoin de repos, nous enseigne un principe pédagogique. Il nous dit, lui qui n'en a pas besoin, lui qui est illimité, il nous dit, mais toi, tu es limité, tu as besoin d'arrêter et de mettre des limites. Et il le fait de manière pédagogique. Il nous rappelle ce principe fondamental. Ce principe biblique, des limites à l'activité afin de régénérer bien sûr le corps, des limites dans nos relations même, afin de pouvoir exister et de ne pas se faire même des fois manger par l'autre. Dans toute chose que nous faisions, nous avons besoin de mettre des limites. Et ce qui amène souvent la fatigue et l'épuisement, le manque de repos, c'est qu'on ne met pas de limites dans nos vies, dans nos relations, autour de nous. Je ne dis pas que c'est facile de mettre des limites, je dis juste que c'est un principe. On dit souvent que des comportements pervers ou manipulateurs, c'est qu'il y a une emprise sur quelqu'un. Vous avez déjà entendu ça ? C'est en fait des personnes qui transgressent vos limites. Ça veut dire qu'il y a une emprise sur vous, émotionnelle, psychique, et c'est épuisant cette emprise. C'est épuisant, ça vous détruit. Parce qu'il y a quelque chose qui est transgressé, il y a quelque chose de transgressif. On dépasse une limite. Mais je pense qu'on peut prendre d'autres exemples beaucoup moins violents que le pervers ou le manipulateur. On peut prendre un exemple tout simple, les réseaux sociaux. Voilà un domaine où il n'y a pas de limite. Est-ce que vous avez remarqué que les réseaux, il n'y a pas de limite ? La connexion d'aujourd'hui, le fait que le monde est devenu un village par Internet, les réseaux sociaux, c'est épuisant. C'est épuisant parce que ça ne s'arrête jamais. Il y a toujours une nouvelle vidéo intéressante. Il y a toujours une news importante. Un ami qui vous partage quelque chose. 24 heures sur 24, ça ne s'arrête jamais. Le soir, le matin, le midi, et même aux toilettes, qui est quand même un endroit un peu où il n'y aura personne normalement. En tout cas, moi, c'est là que je me réfugie en famille quand je ne veux plus voir les enfants, plus voir personne. C'est une blague, c'est une blague. Moi, je demande, je vous pose une question. Quand c'est qu'on instaure un arrêt mondial des réseaux sociaux ? Ce ne serait pas bien, ça ? Un jour par semaine, mondialement, tout s'arrête au niveau des réseaux. Ce serait formidable. Hein ? Est-ce qu'on ne devrait pas lancer le nouveau mouvement pour un arrêt, un sabbat des réseaux sociaux un jour par semaine ? Ah ! J'ai déjà une personne avec moi. Qui est la deuxième ? 3, 4, on y va. On va faire une pétition. Ça va nous prendre du temps, de l'énergie. Non, je rigole, c'est une blague. Je sors de mon message. Là, je suis de nouveau en train d'essayer d'avoir une prise sur le monde. C'est vrai qu'à notre époque, c'est intéressant l'époque dans laquelle on vit, on n'a jamais eu autant de congés. Il y a 100 ans, il n'y avait pas les 40 heures de semaine par 40 heures de travail par semaine. Il y a 100 ans, il n'y avait pas les 5 semaines de congés payés. C'est pas vieux, 100 ans. Hein. C'est pas vieux dans l'histoire de l'humanité. C'est peu. Il y a 100 ans, il n'y avait pas 2 jours de congés par semaine. Et pourtant, nous n'avons jamais eu autant d'épuisement, de stress et de burn-out. Alors qu'on vit une époque où on n'a jamais eu autant de congés. Où est le problème ? Où est le problème ? Les études montrent que le burn-out, qui est un mal quand même de notre siècle, hein, on peut le dire, ce n'est pas seulement un épuisement physique, ça en fait partie, mais c'est d'abord, principalement, un stress chronique lié à une attente démesurée, c'est-à-dire illimitée. Si je vous passe quelques exemples des facteurs les plus importants qui reviennent le plus dans les burn-out, on va les lire ensemble, si vous êtes d'accord. Il y a une pression constante prolongée. On a l'impression qu'il n'y a pas de limite. Un sentiment de ne jamais pouvoir en faire assez. Des exigences élevées avec peu de contrôle sur la situation. Des conflits ou tensions relationnelles, de nouveau, tensions, problème de limite dans les rapports aux autres, un manque de reconnaissance et de soutien, et une charge émotionnelle importante, devoir gérer les attentes, les problèmes ou les émotions des autres. Voilà, il y a beaucoup de points qui ressortent où il y a cette notion d'illimité. On ne peut pas répondre à tous les besoins des autres. On ne peut pas répondre à toutes les attentes de mon travail, à toutes les pressions. Et c'est cette pression-là qui produit un burn-out. Alors, on va en faire plus physiquement et ça nous atteint aussi dans notre santé physique. L'homme et la femme ont été créés à l'image de Dieu, à sa ressemblance. On est à l'image de Dieu, on est représentant de Dieu sur terre. On est donc appelé à l'imiter et à lui ressembler. Et lorsque Dieu dit qu'il s'arrête alors qu'il n'a pas besoin de s'arrêter, à combien plus forte raison nous, Dieu nous invite à faire de même. Dieu s'est arrêté pour que nous puissions exister. Et c'est une invitation ce matin à nous arrêter pour que Dieu puisse exister dans notre vie. C'est une invitation à nous arrêter, Shabbat, à faire Shabbat pour que ta femme ou que ton mari puisse exister. C'est une invitation à s'arrêter pour que ton enfant, tes amis puissent exister. C'est le premier sens du mot s'arrêter. J'aimerais vous en donner un deuxième. Donc c'est le premier mot qu'on a vu donc dans Genèse 2. Maintenant, on va voir Genèse 2, verset 2. On va voir le verset 3 qui nous parle du repos. C'est pas seulement s'arrêter, c'est kadosh, sanctifier. C'est un temps différent. C'est ça que ça veut dire, sanctifier. À part, différent. C'est un mot différent des autres. On va reprendre le texte. Non, je ne l'ai pas mis. Oui, c'est ça, il est là. Dieu bénit le septième jour et le sanctifia. C'est comme si on dirait le mis à part, car il avait alors arrêté toute l'œuvre qu'il avait faite et qu'il avait créée. Dieu a contemplé sa création dans ce septième jour. Il en a même profité et il a pris conscience de ce qu'il venait de faire. Il a regardé ce qu'il a fait. Il a pris du recul sur ce qu'il était en train de faire. C'est toujours pédagogique, ce que je vous dis. Dieu fait ça de manière pédagogique pour nous. En fait, sanctifier, c'est vivre ce temps différent de le temps où on est dans l'action, on fait les choses. C'est de regarder, de prendre du recul. C'est un temps, le septième jour, pour prendre conscience des autres, de ce qu'ils font, de ce qu'ils disent, de ce qu'ils sont. C'est un temps pour moi de prendre conscience de ce que je fais, de ce que je dis, de comment j'agis, de prendre du recul sur moi. Ce n'est pas un temps pour faire d'autres choses. Quand on dit différent, ce n'est pas un temps pour dire « Avant, je travaillais pour mon travail, maintenant quand je suis à la maison, je vais faire encore du travail, mais je vais faire plein de choses. » Ça, c'est deux temps différents, mais ce n'est pas ça que dit le texte. C'est un temps pour prendre conscience de qui je suis, des autres, mais aussi de Dieu. De donner de l'espace à Dieu, de ce qu'il fait, de ce qu'il est, de comment il parle. C'est aussi un temps que Dieu veut qu'il soit habité par sa présence. Quelque part, ce septième jour, c'est un moment d'intériorité où l'on se retrouve. C'est un moment où nous ne sommes plus dans la course effrénée de la vie, des activités. C'est un moment où Dieu nous rencontre. Pourquoi je fais les choses? Quel est le sens de la vie? Est-ce que ce que je le fais bien? Pourquoi cette problématique qui revient toujours et toujours, depuis des années, avec différentes personnes? Il faut s'arrêter pour réfléchir à ça, avec Dieu. Mais c'est vrai, il y a quelque chose de cyclique qui revient. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse par rapport à ça? Est-ce que je ne suis pas dans une boucle que je reproduis? Comment est-ce que je peux en sortir? Est-ce qu'il n'y a peut-être pas un héritage, quelque chose? Et pour faire ce travail, on a besoin d'un temps différent, d'un temps, ce temps de prise de recul sur mes actions, sur mes paroles, sur la manière d'appréhender le monde différemment. Et je ne peux pas vivre cette étape du kadosh si je n'ai pas vécu le Shabbat avant. Je ne peux pas avoir cet espace pour le vivre différemment si je n'ai pas cessé les activités, si je n'ai pas fait une pause, si je n'ai pas une limite dans ce que je faisais. C'est en libérant de l'espace et du temps que je peux réfléchir autrement, prier autrement. Quelque part, le fait aussi d'arrêter mon action sur le monde pour donner ce temps à Dieu, pour moi et pour Dieu, pour les autres, c'est un acte de foi. Le repos comme acte de foi, vous avez déjà réfléchi à ça? Parce que quand je ne fais pas, quand je ne produis pas, je perds quelque chose. Je perds Je perds de l'argent, je perds une connaissance que je pourrais encore développer, un cours que je pourrais encore faire. Donc je suis en perte de quelque chose et je fais confiance à Dieu que quand je prends ce temps avec lui, je renonce quelque part à quelque chose. Et je fais confiance que Dieu pourvoira à tous mes besoins. J'entre dans une dimension de confiance avec Dieu. Est-ce que tu peux relancer le PowerPoint ? J'aimerais vous citer un travail, c'est la citation de David Richir. Là. David Richir est un enseignant qui a écrit qui a fait un travail sur le repos du peuple de Dieu. C'est un travail de master. Et en fait, il va citer, je vais citer une phrase de lui, et je trouve très intéressant. Il dit, en cessant notre activité, nous laissons à Dieu ce que nous ne ferons pas en ayant l'assurance qu'il en prend soin. Je crois que tout est dit. Voilà comment Dieu veut qu'on vive ce temps, cet espace. Alors vous avez remarqué, je me suis bien gardé de dire un jour de 24 heures, un espace de 5 minutes, j'ai rien défini, et ça, je vais venir dans ma conclusion. Est-ce que, ma question que je vous pose suite à tout ça, est-ce que j'ai des moments où je m'arrête ? Un jour par semaine, samedi ou dimanche ou autre ? Peut-être c'est trop difficile dans nos sociétés d'aujourd'hui de vous arrêter un jour entier, de vraiment vous arrêter d'activité. Peut-être vous pouvez vous arrêter une demi-journée. Ce que nous enseigne ce principe, c'est d'avoir un espace où vous puissiez vous arrêter. Alors certains l'ont converti en une observance stricte. Les juifs, par exemple, et les juifs particulièrement orthodoxes qui pratiquent, vont très loin. Eux, il n'y a pas de TV ce jour-là. C'est le samedi, bien sûr. Ils font la nourriture la veille pour n'avoir que à réchauffer le lendemain. Il y a une limite dans les déplacements. C'est un chemin de sabbat, 1000 ou 2000 pas. Les ascenseurs sont automatiques pour ne pas avoir à exercer une activité, vous comprenez ? Parce qu'appuyer sur un bouton d'ascenseur, c'est exercer un travail, c'est exercer une prise sur le monde. Vous comprenez la logique qui est derrière. Donc ça va très loin si on développe. Par exemple, ils vont aussi, dans d'autres situations, ils vont fermer les routes, ils ne vont pas prendre la voiture. Il y a des rues, par exemple, dans certains quartiers, il n'y a plus de voitures qui circulent à Shabbat. Du coup, c'est intéressant parce que la route peut être réinvestie par des personnes. Et ils s'assiedent sur la route et ils discutent. La route devient, est quelque part, sanctifiée, mise à part pour autre chose que produire, se déplacer pour les camions qui doivent acheter et vendre, etc. C'est intéressant de réfléchir comme ça aussi, de se dire... La route est sanctifiée, on pourrait dire, pour la rencontre, pour la relation et vivre autre chose. Alors malheureusement, non, je ne pense pas qu'on y arrivera ici en Europe, à moins qu'on l'impose de force, mais ce n'est pas ce qu'on va faire. Mais est-ce qu'on peut peut-être développer des sabbats dans d'autres domaines de nos vies ? Des sabbats d'écran, par exemple. Des sabbats de connexion, de mettre des limites, puisque c'est ça l'esprit du Shabbat Kadosh, que je vous ai parlé ce matin. Ça ne se limite pas forcément à un jour de la semaine, mais ça peut être un moment, un espace où vous mettez de la limite. Ça peut être un temps de vacances. Je nous encourage à libérer des espaces pour nous arrêter, pour nous tourner vers Dieu, pour nous tourner vers les autres, pour contempler, pour réfléchir, pour ne pas planifier. Et si, quand nous rencontrons quelqu'un, nous passons des heures à cuisiner, et puis quand la personne vient, tout tourne autour du repas, voilà les entrées que j'ai faites, les plats que j'ai faits, est-ce qu'on ne passe pas à côté du sens même d'inviter quelqu'un, finalement ? Est-ce qu'il n'y a pas une limite à mettre là ? Et si on mange un plat de pâtes avec la sauce tomate et un petit peu de gruyère, ça va aussi. Et ça prend moins de temps et on a plus de temps pour libérer de l'espace dans la relation. Et si on entrait dans cette dimension du sabbat, un peu plus dans notre vie de tous les jours, dans nos choix de tous les jours. C'est plus qu'un temps où on compose à part. C'est une façon de penser différente dans ce qu'on fait. Et c'est cela que nous enseigne ce texte ce matin. Et c'est ce vers quoi je nous souhaite de tendre, parce que Dieu nous a créés à son image et il a posé des principes pour notre bien-être, parce que sa volonté est bonne, agréable et parfaite, parce qu'il est le constructeur de la voiture qu'il connaît mieux que toi tu te connais, et il sait ce qui est bon pour toi. Et dimanche prochain, nous irons plus loin dans cette notion de sabbat, de shabbat et de kadosh, qui va trouver son accomplissement en Jésus-Christ. Et c'est dans notre union à lui que nous entrons dans le véritable repos. C'est dans l'union à Christ, et nous le verrons prochainement, parce qu'il est le maître du sabbat. Je vous invite à prier. Alléluia. Seigneur, nous voulons te ressembler. Nous voulons entrer dans le repos que tu nous proposes. Ce matin, nous reconnaissons que nous n'y arrivons pas toujours. Nous voulons beaucoup maîtriser les choses, faire les choses, et faire comme nous voulons le faire. Et ce matin, nous voulons te laisser habiter nos cœurs ce matin, habiter nos vies, et nous indiquer le chemin. Pour tous ceux qui ont trop ce matin, tous ceux qui sont débordés, donne-nous en fait à chacun. Je crois qu'on peut tous se reconnaître ce matin dans ce que nous avons partagé. Donne-nous de trouver ces espaces. Donne-nous le courage de mettre des limites. Donne-nous la force de les tenir. Nous voulons t'inviter aussi plus souvent dans ces temps où nous sommes avec nos frères et sœurs, nous partageons ta parole, dans ces temps où nous sommes seuls, où nous sommes avec toi. Seigneur, viens encore plus prendre ta place, encore plus de sainteté dans nos vies, encore plus de sabbat dans nos vies, Seigneur. Et que nos vies et que ce monde te glorifient de plus en plus. Amen.